une question à propos de la comparaison que vous avez faite entre les séries américaines et les séries françaises. Mais il n'y a pas eu tellement de développement sur les séries françaises, sans doute aussi parce qu'il y en a moins, je pense, que les séries américaines. Alors vous avez pris l'exemple d'Engrenage. Et là, tel que moi je l'interprète, mais j'y vois pas tellement spécialement une critique du jeu public ou une dimension plus politique que dans, par exemple, The Wire, qui est certes pas une série judiciaire, mais Engrenage n'est pas tout à fait une série judiciaire.
Ah, je suis d'accord.
Parce qu'on la compare à Annie McBee ou
d'autres. Oui, non, mais bien sûr.
Et donc, dans les deux cas, que ce soit dans The Wire ou dans Engrenage, j'ai l'impression qu'on expose chaque fois, dans les deux cas, l'importance du politique, mais sans nécessairement dénigrer le juridique. Simplement, c'est un des champs dans lesquels le politique va se traduire par des codes, comme on l'a vu, ou par des discours, des langages particuliers, et où il va se déployer. Je ne vois pas, par exemple, dans les personnages, une critique particulière de personnages qui sont dans le monde juridique par rapport à d'autres. Je ne sais pas, par exemple, le juge Roban, qui est le... On voit bien plutôt les dilemmes du juge, et on voit aussi une sorte d'indépendance, en fait, du juge par rapport au politique, parce que on s'en laisse pas compter, donc il est dans un milieu politisé, mais on voit de nouveau qu'il prend là aussi ses responsabilités. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai un peu du mal à partir, en tout cas, de cette série-là, de voir une critique du juridique qu'il n'y aurait pas, par exemple, dans les séries américaines. Mais si je prends The Wire, par exemple, c'est un peu... Ben, j'y vois pas tellement de différence, en fait.
Entre The Wire et Engrenage, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas tellement... Les Anglais ont dit que Engrenage, c'est The Wire français.
Ah, ben.
Je ne suis pas d'accord avec ça.
Mais voilà, enfin moi, c'est juste une idée comme ça. Mais en tout cas, ce que je voulais juste signaler, c'est que, en vous entendant, je ne suis pas convaincu, mais enfin, je reste agnostique sur le point de savoir si les séries françaises, de ce point de vue-là, ce serait plus une critique du juridique que les séries ou même des films américains où on pourrait un peu étendre. Parfois, il y a des tas de films qui critiquent le monde juridique, enfin, tous les films sur les justiciers qui estime qu'il faut pouvoir agir à la rencontre ou en dehors du droit. Donc, voilà. Et alors, l'autre aussi opposition que vous faisiez aussi sur la vérité judiciaire, mais ça, c'est plus général, peut-être sur ce même système comme le droit civil. À vous entendre, on pourrait penser qu'en droit civil, on croit en la vérité, alors qu'on... à la vérité avec un grand V, alors qu'en comme le on n'y croit pas. Je sais pas, je nuancerais peut-être un petit peu, moi, plutôt civiliste. J'ai pas l'impression nécessairement que, comme l'indique tout le système des présomptions, en particulier la présomption d'innocence, qu'il s'agit de dire qu'on est sûr qu'on va atteindre la vérité ou que c'est pas une question de probabilité ou de plausibilité. J'ai l'impression qu'il y a une différence de nouveau de discours de vocabulaire et de cérémonial et tout ce que vous voulez. J'ai pas nécessairement l'impression que fondamentalement c'est différent.
Oui, enfin, je sais pas, je pense qu'il y a un certain temps, c'était...
Je vais juste ouais. faire, parce que je pense tout d'un coup à l'exemple de la dernière saison d'Engrenage, où à un moment donné, par justement tout un mécanisme où on montre la logique de chacun des acteurs, ça aboutit au fait que devant le juge, on peut pas prouver que il y a eu un accident, et on peut pas prouver que la police est responsable, on peut pas prouver non plus que quelqu'un d'autre n'est responsable, donc la victime dit, oui, mais alors quoi, personne n'est responsable, et on voit bien justement une mise en abyme du fait que la vérité judiciaire ne correspond éventuellement pas du tout à une forme de vérité, parce que là, il y a par définition une incohérence entre les deux. Donc ça illustrerait plutôt en dommage dans cette dernière série, la relativité complète de la vérité judiciaire, sans que ce soit nécessairement même critique, parce que je trouve que le point de vue d'Engrenage, ce qui fait sa force comme dans The Wire, c'est que ça ne donne pas de leçon particulière.
Alors, je suis d'accord avec vous sur certains points. Il faut comparer Engrenage première saison avec Engrenage cinquième saison, où il y avait un nom de juriste comme consultant sur le plateau. Moi, je les ai rencontrés. Il n'y a jamais eu le juriste sur le plateau. Il y avait un nom de juriste sur le plateau. Un de l'endroit qui a pris l'écriture à partir de la saison 3, où cette série a complètement changé et a commencé, à mon sens, à être intéressante. Elle a eu de plus en plus de responsabilités et de liberté, et elle a toute une équipe de juristes qui travaillent avec elle maintenant. Les choses sont beaucoup plus nuancées, et il y a... Alors, quand je vous ai dit... Alors, je ne sais plus comment... Parce qu'il y avait plusieurs choses dans... sur les 60 ans que j'ai étudié pour les Américains, il y a 140 séries judiciaires ou fictions judiciaires, parce que j'inclus pas dedans Court TV ni les juges, les petits juges de réalité. En France, pour la même période, il y a eu pendant très longtemps 5. Donc la justice n'est pas une préoccupation, c'est pas quelque chose qui intéresse les Français. Je ne dis pas qu'ils critiquent autant la justice, mais ça ne les intéresse pas. C'est un pays qui représente quelque chose de beaucoup plus social et de beaucoup plus politique. Et quand vous regardez les premières années, et même les cinq ans d'engrenage, on voit quand même qu'on est dans un système qui est politique. Quand il y a une sanction sur un juge ou sur le procureur, ça vient à cause d'une décision. C'est une décision de ne pas vouloir marcher dans les combines qu'on leur propose. C'est pas tellement qu'il a fait une faute au tribunal ou quelque chose. Quoique lui, bon, il finit par faire une faute au tribunal, mais il quitte la profession, il devient avocat. Donc c'est vrai que lorsqu'on doit aller vite, on schématise un petit peu, et il y a peut-être des grossièretés que j'ai vues, que j'ai dit, mais je pense que les préoccupations des Français, c'est beaucoup plus politique, et la justice est vue comme une institution dans un système politique. On voit beaucoup les juges de la hiérarchie qui réprimandent les autres juges, où ils essaient d'attraper Roban. Mais il faut dire aussi que si vous avez regardé les 5 saisons, Roban, qui est un juge d'instruction dans la première saison, c'était pénible à regarder. Il rapporte une preuve chez lui, première erreur judiciaire. Il potasse un agenda de la victime à son bureau devant une fenêtre ouverte. Il part, il va se faire un thé. Il revient, quelqu'un est entré par la fenêtre, a appris la preuve. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible de montrer un juge d'instruction comme ça. C'est pas acceptable. C'est juste pas possible. Donc maintenant, il a des dilemmes et il a des problèmes qui tiennent beaucoup plus de l'hiérarchie. Et donc je trouve qu'il est dans un engrenage politique, pour utiliser ce terme. Alors les Américains critiquent beaucoup le système de justice. Ils ont toujours critiqué le système de justice. Mais ce qui est intéressant, et pour ça je pense que c'est... Alors ils sont plus intéressés par la justice puisqu'il y a 140 séries en 60 ans, mais aussi les séries, les fictions se terminent toujours... Même si on a beaucoup critiqué le système, ça se termine sur une note d'optimisme, sur une note... on a l'impression que c'est tout ce qu'on a comme système, ça marche. Mais c'est les hommes qui font de temps en temps que ça ne marche pas. Et... moi, j'ai pas l'impression, en France, il y a beaucoup de confiance dans la justice. Pas forcément qu'on le critique comme les Américains peuvent critiquer, mais il y a pas... Moi, je vois pas la confiance.
C'est à propos de la série The Good Wife et l'image que vous dites du juge qui est en haut et qui vient voir du coup. Et ça m'a fait penser au fait qu'il y a eu quelques épisodes dans The Good Wife où il y a un juge où systématiquement les avocats doivent dire à la fin de leur argument in my opinion pour lui faire plaisir. Mm-hmm. Ou alors une fois, je pense qu'Alicia devait porter un tailleur en jupe et pas un pantalon pour. Et je me disais, est-ce que ce n'est pas une façon indirecte de donner encore plus d'importance aux juges parce que les avocats ont tendance à se moduler pour leur plaire un peu
C'est sûr que le juge tient son tribunal. Hein. Et d'ailleurs, dans certains États aux États-Unis, ils décorent leur salle de tribunal parce qu'ils exercent toujours là, donc ils le décorent comme ils veulent. Donc ce phénomène-là est très présent dans The Good Wife. Et peut-être un peu exagéré, mais on exagère des choses pour que les téléspectateurs prennent conscience de certaines choses. Donc oui, c'est une façon de montrer que c'est lui le boss dans ce tribunal. Et ça l'a toujours été, sauf que ce n'était pas représenté comme ça. Et ça me fait penser à une chose que je voulais dire lorsque Vincent a parlé. Je ne voulais absolument pas suggérer que certaines différences dans les représentations sont des différences en réalité. C'est la façon dont les juges sont représentés, la façon dont les avocats sont représentés et la façon dont la justice est représentée qui montre une culture. Hein, parce que en parlant avec des scénaristes en France, ils ne sont même pas conscients par moment de ce qu'ils mettent dans leur récit, mais ils le mettent. Donc c'est comme ça qu'ils voient les choses.
C'est aussi par rapport à la série de Good Wife.
Excellent.
Je vais poser une question juste au niveau du lien entre le juge et la politique. Et je trouve que dans cette série, est quand même souvent assez marqué, notamment Peter Craig, il est State's Attorney, puis il devient gouverneur de l'Illinois. Et même, il y a aussi des juges. Il y a un juge qui est toujours qui est un peu, c'est pas écologiste, mais qui, à chaque fois, il fait une minute de silence parce qu'il y a des grévistes devant la porte, il peut penser à eux, etc. Et je ne connais pas du tout les séries françaises dont vous avez parlé. Est-ce que vous pouvez voir à ce niveau-là? Donc je trouve que dans The Good Wife, on représente assez bien quand même que le juge a parfois un lien très fort avec la politique. Et est-ce qu'il y a à ce niveau-là aussi une différence entre l'Europe et la France?
Alors, il a un lien avec la politique, il a une carrière politique. Donc, je ne vois pas ça exactement de la même manière. C'est-à-dire que dans Law and Order, on voit déjà le procureur-chef qui s'inquiète énormément de la médiatisation de certaines affaires, parce que le procureur-chef est élu. Et aussi, souvent, ce procureur, il va devenir juge. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas une école de magistrature. Donc, on devient juge après une carrière à la barre. Donc, soit comme procureur, soit comme avocat. Donc, c'est des gens qui se connaissent, qui se sont côtoyés. Et puis, c'est la profession, comme en Angleterre, la profession vous suggère de devenir juge. On ne peut pas postuler. Sauf qu'en Angleterre, aux États-Unis, si, on peut postuler au niveau étatique, parce qu'on fait campagne et on se déclare candidat. Donc, en Law and Order, on voit un peu le début d'une prise, d'une volonté de représenter cet aspect politique des juges et surtout du procureur. Dans The Good Wife, on arrive à ça. Mais c'est vraiment la première série où on est conscient des aspirations politiques des juges et le fait qu'ils gèrent une carrière politique parce qu'ils sont élus. Hein. On n'a pas encore, ça c'est peut-être où on irait après, c'est le juge fédéral. Mais pour l'instant, ils ne savent pas écrire ça. Parce que c'est trop éloigné, personne ne sait. Tout le monde est citoyen de son État avant vraiment d'être citoyen des États-Unis, sauf quand il voyage ou quand il y a un drame dans le pays.
Moi, j'aurais une petite question. D'abord, une remarque par rapport à la question de l'idée et puis les deux questions qui viennent d'arriver. Peut-être que la différence, l'opposition, même si elle est schématique, entre la culture, disons, de common law américaine et la culture française, serait pas la question de savoir si c'est politique ou pas politique, parce qu'effectivement, pour des continentaux, le simple fait d'élire un juge, il n'y a rien de plus politique, du point de vue continental. C'est le summum de la dimension politique de l'activité judiciaire. Alors que nous, on a l'impression que nos juges ne sont pas politiques, parce que justement, ils ne doivent pas se compromettre en essayant de séduire l'électorat. Donc, je crois que la différence, ce n'est pas de savoir si c'est politique ou pas politique, parce que, par définition, quand on tranche une série de questions, c'est forcément politique. On intervient dans la gestion du social et on interfère avec des questions politiques. Mais la question, c'est plus la question de la hiérarchie et de l'État. j'ai l'impression. Surtout par rapport à Engrenage, c'est-à-dire que dans Engrenage, quand vous disiez mais si c'est politique, c'était pour nous dire qu'en réalité, ce qu'on voit dans Engrenage, c'est la pression de la hiérarchie et puis en général des autres pouvoirs sur le système judiciaire, précisément parce que le système judiciaire dépend de ses nominations par les autres pouvoirs et n'est pas du tout justement un système indépendant directement élu par les citoyens. C'est précisément parce qu'il est soi-disant non politique qu'en fait il est très très politisé, mais d'une autre façon, hein, par d'autres biais. Peut-être que la différence elle est plus à ce niveau-là que la question de savoir si c'est politique ou pas politique est une question en fait un peu d'interprétation.
C'est pas forcément que c'est pas dans la réalité politique ou pas politique, mais la représentation est séparée de ça, sauf dans 100 Center Street, où on le voit.
Oui, et dans le Good Wife, où on voit dans justement, le effectivement, les opinions intervenir dans la façon dont les juges sont présentés.
Il y a 12 ans qui séparent les deux séries.
Mais alors, ma question n'était pas vraiment celle-là, ma question c'était plus le statut que vous accordez, que tu accordes aux séries elles-mêmes dans le discours culturel, qu'il soit continental ou américain. Est-ce que la télévision et les séries télévisées en particulier ont un rôle d'éducation aux affaires citoyennes, hein, c'est ce qui est sous-entendu dans l'expression télé-citoyen, c'est-à-dire que par la série télévisée, les mœurs juridiques entrent dans la tête des gens et les gens sont familiarisés, savent à quoi s'attendre, savent éventuellement qu'ils ont des droits qu'ils peuvent faire valoir, etc. Ou bien, est-ce que, et c'est ça qui est sous-entendu aussi, est-ce que la télé américaine ou française donne aux citoyens ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qui n'est pas exactement la même chose, évidemment, puisque à plusieurs reprises, tu as dit, bah là, par exemple, ils ont mis des éléments de culture juridique de common law dans une série française, non pas parce que c'est la réalité, mais parce que c'est ce que les gens ont envie d'entendre ou de voir. Et de la même façon, ça n'a pas marché quand on fait des cours fédérales ou la Cour suprême, parce que ça n'intéresse pas les gens. Donc, il y a un peu cette ambivalence entre la série ou le programme télévisé comme méthode d'éducation civique, et le revers de la question, c'est aussi de manipulation, parce que, évidemment, par la télévision, si on considère que la télévision est uniquement un moteur d'éducation civique, il faut aussi se rendre compte qu'il faut avoir une attitude critique vis-à-vis de ce que la télévision communique comme modèle civique, et ça, je ne suis pas sûre que ce soit forcément à travers les séries judiciaires que disons l'Américain moyen ou le Français moyen va être capable d'avoir une attitude critique vis-à-vis de ce que les Français. Donc d'une part, soit c'est ça, en tout cas que ce soit pour légitimer le système ou pour l'apprendre, le transmettre, la série est là comme un peu un moyen. Ou bien, au contraire, on va ou travestir la réalité ou en donner une représentation. Hein, comme tu dis, il ne s'agit pas ici forcément de dire que dans la réalité, les deux cultures sont différentes, mais bien de dire que dans la représentation qu'on en donne, ça veut bien dire ici que cette représentation, qu'elle soit pour légitimer le système ou simplement pour faire plaisir aux consommateurs de séries télévisées, elle n'est pas forcément juste. C'est-à-dire adapté à une certaine réalité de la procédure, de ce que c'est que la justice, de ses travers, etc. Donc c'est un peu le statut du discours. Est-ce que, par le simple fait que la télévision est quand même le produit premier de consommation, en particulier aux États-Unis, est-ce qu'on est bien sûr. C'est effectivement une méthode de pénétrer dans les foyers, mais est-ce que c'est pas aussi, on galvaude pas en quelque sorte l'éducation à la citoyenneté qui pourrait y avoir derrière, simplement en répondant à l'appétit.
Et moi je voulais rebondir vraiment en complétant, parce que j'avais aussi cette question que Julie vient très très bien formuler, que j'ai laissée de côté pour ne pas être trop long. Et c'est vrai que vous le citez à un moment, et à la fois je suis tout à fait convaincu en lisant votre ouvrage, en vous écoutant, de la possible vocation pédagogique de la télévision, cette éducation à la citoyenneté, pas la télévision. C'est pour ça que je parlais aussi du jury, parce que je pense que par le jury, par l'institution du jury, on peut aussi se former, enfin devenir citoyen. Ça peut être la voie vers une éducation à la citoyenneté, le jury ou le fait d'assumer son statut de télécitoyen, comme vous l'appelez. Mais alors, quelles sont les tensions avec à la fois le fait que cette logique commerciale elle est très forte à la télévision, encore plus qu'au cinéma, parce qu'on peut envisager quand même du cinéma d'auteur qui est distribué via des canaux alternatifs, etc., alors qu'à la télé, c'est tout simplement pas possible. Et puis...
C'est possible.
Mais,
il y a des chaînes...
Ça change très fort. The House of Cards, par exemple, a commencé tout petit échelle, et puis c'est devenu beaucoup plus grand. Et tout d'un coup, maintenant, ça éduque les gens, et ça les fait s'intéresser aux phénomènes politiques. Je pense que la même chose se passera maintenant grâce à une distribution qui se fait via Netflix, via Internet, où effectivement, on achète des choses, mais on commence. C'est le citoyen, effectivement, qui va aller acheter en fonction de l'achat.
Oui, c'est ça. Et donc,
c'est pas directement du broadcast, quoi.
Parce que les gens ont regardé.
Mais
il faut se poser des questions sur ce que les gens regardent.
Oui, mais ça, parce que vous citez cette phrase et ça, mais c'est juste pour poser la question et les termes du débat. Vous citez cette phrase qui peut-être exprime une certaine vision de la télévision, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est la phrase de Patrick Lelay qui disait. Le directeur de TF1 disait en fait que ce que vendait TF1 aux annonceurs, c'était du temps de cerveau humain disponible. On a beaucoup parlé de cette phrase.
Mais c'est un Français qui a parlé de la télévision française, et c'est justement mon grand problème du côté television studies, c'est que les Français méprisent le téléspectateur.
Oui, mais c'est peut-être de ce côté-là qu'il y a aussi une question de culture.
Ah oui.
Et que s'entremêlent à la fois une différence de culture juridique.
Il ne pourrait plus dire maintenant parce que les publicités en France sont en train de
changer. Par exemple, la phrase que tu as citée sur tu prenais l'exemple du juge d'instruction qui laisse s'échapper ses feuilles, etc. Et tu disais, mais on ne peut pas montrer ça à la télévision. Pourquoi ? Je veux dire.
Pas sans.
Mais parce que, d'abord, ça peut toujours arriver devant le juge d'instruction, ça existe. Et d'autre part. Est-ce que la télévision, moi je veux bien que la télévision soit un instrument d'éducation civique et de ce qu'il faut faire, ne pas faire, mais en réalité elle ne l'est pas. Donc je veux dire, elle peut l'être.
Elle veut bien.
Elle peut l'être, mais elle ne l'est pas nécessairement.
D'accord, mais c'est plus complexe que ça. Et on ne peut pas dire oui, c'est un outil de l'éducation civique ou non, c'est pas un outil de l'éducation civique. Il y a eu des périodes, il y a des scénaristes et des chaînes qui prennent des responsabilités plus sérieusement que d'autres, et puis il y a des pays. Alors en France, je suis désolée, mais c'est catastrophique, parce que on a toujours considéré la télévision comme une boîte à idiots, et on méprise, mais à un tel point, le téléspectateur. Je connais des jeunes scénaristes qui, une fois qu'ils ont été embauchés, ils arrivent tout contents, ils arrivent premier jour et on dit « Excusez-moi, il ne faut pas sourire, on fait de la merde ici. » Donc les gens se critiquent eux-mêmes, ils ont honte eux-mêmes pour ce qu'ils font. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la télévision a commencé à New York. New York a toujours été un lieu de culture et de... Bon, dans les années 50, parce que les scénaristes d'Hollywood étaient chassés d'Hollywood par qui ? Par McCarthy. Et donc, ils ont trouvé une façon d'écrire ce qu'ils avaient envie d'écrire, sous un pseudonyme parfois, ou alors en équipe, ce qui fait que leur nom n'était pas si visible. Et 12 hommes en colère a été écrit pour la télévision. Donc, des choses de qualité et de critique sociale ont été écrites pour la télévision, pour toucher le téléspectateur dans les années 50. Alors, il y a eu des hauts et des bas, parce que évidemment, la télévision veut vendre. Donc il y a eu des périodes de télévision nulles où Nathan Minow en tout cas était son nom, il était l'équivalent du CSA aux États-Unis, qui a dit « Television is a vast wasteland ». Et à cette époque-là, il avait raison, il n'y avait rien. Et il n'y avait que des flics qui étaient en voiture et on avait des scènes et des scènes et des scènes et des scènes de pourchasse où c'est facile à faire. Mais il y a eu des périodes, Robert Thompson parle de la second golden age de la télévision, où il y a des questions sociales qui sont portées à toute la question de la femme qui commence à travailler, il y a eu des avortements discutés à la télévision alors que la Cour suprême était très frileuse. Donc il y a des moments où la télévision a brillé et a apporté des questions. Ce que je trouve très... très noble de la télévision américaine. Et je ne suis pas une inconditionnelle de la télévision américaine ou de la télévision tout court. Je suis contente quand les gens lisent. Il faut lire. Mais il faut dire aussi que parfois la télévision amène les gens à la lecture. Lost, qui est une série qui, à la fin, moi j'ai jeté des trucs à ma télévision tellement j'ai trouvé que c'était épouvantable, mais qui a commencé intéressant. Et qu'est-ce qui se passe dans Lost? Vous connaissez Lost? C'est un crash d'avion, c'est pas du tout une série sur un crash d'avion. C'est une série sur le contrat social et le... Voilà, ok. Et l'autre, et le terrorisme, et toutes ces choses-là qui étaient les préoccupations des Américains. Donc comment faire en sorte qu'on apprend à vivre avec l'autre? Ben, on les met sur une île déserte. Et comment ils arrivent sur l'île déserte? Ben, il y a un crash d'avion. D'accord, donc c'est réglé, on a commencé la série. Il y a un personnage qui s'appelle Sawyer. Sawyer, c'est un personnage de littérature. Tom Sawyer, Mark Twain, d'accord. Il va dans le fuselage de temps en temps parce qu'il s'ennuie sur la plage et il sort avec des bouquins. Et il ouvre le bouquin en une seconde dans l'épisode, deux, trois secondes. Le lendemain sur Amazon, on ne trouve plus ces bouquins. Donc on a amené les gens à lire Watership Down. Watership Down, plus personne ne lisait ce livre-là, mais on le lit pour savoir pourquoi il a été dans cette... Donc il y a des choses qui se passent dans les séries qui aident... Voilà. Que la télévision est une... Oui, je disais tout à l'heure, ce que je trouve noble dans les séries judiciaires, c'est qu'à l'époque actuelle, on ne dicte plus, parce que c'est pour ça qu'on ne montre plus innocent ou coupable, c'est pas intéressant. Maintenant, il y a deux parties qui argumentent avec des arguments vraiment raisonnables. Et on écoute un et on dit, tiens, il a raison. Puis on écoute l'autre, mais il a raison aussi. Donc, comment on va décider ça? Parce qu'en fait, c'est ça la justice. C'est tout le monde a raison, donc il faut trancher. Et, enfin, tout le monde, là je vais vite encore, mais c'est pour dire que maintenant, on a eu la période où on a su que le juge, il fait ce qu'il fait. Où les avocats mènent l'affaire. Et si on regarde une bonne série judiciaire française, on voit que l'avocat ne mène pas l'affaire, ce n'est pas organisé de la même manière. Donc les repères, on les a par la télévision, parce que tout le monde ne va pas au tribunal. Et alors, quand il y a les avocats qui me disent « Oui, mais un procès, c'est public. » Oui, après le travail, je vais aller me renseigner sur la procédure. Non. Donc, si la télévision apporte ces informations aux télécitoyens, c'est bien. Maintenant, il apporte les questions de justice. Les questions de justice. Donc, qu'est-ce que c'est un témoin crédible? Qu'est-ce que c'est l'utilisation d'une preuve? Est-ce que toutes les preuves sont utilisables? Pourquoi est-ce que... Donc, c'est ça que la série judiciaire fait maintenant, sans vraiment donner des réponses. Donc, je pense qu'en ça, c'est une éducation civique. Que ce soit la seule éducation civique, non. Que tout soit vrai, non. Mais le téléspectateur, il est assez sophistiqué. Et donc, il sait qu'il y a... On va pas critiquer... Enfin, si, on va peut-être critiquer la longueur d'une jupe, si vraiment c'est hors acceptable, mais c'est des choses qu'on voit dans les récits qui font un peu que ça se regarde aussi. C'est pas unique. Si c'est...
Mais moi, ma question est d'ailleurs indépendante de la qualité intrinsèque des séries. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a énormément de séries américaines qui sont à très très haut niveau, à tous les niveaux de la réalisation, du scénario, Donc c'est pas la question est plus la question de l'intention. C'est plus la question de...
T'as l'idée aussi. Tu as l'idée.
Pardon ?
Tu as l'idée. Ouais. Parce que Dick Wolf, quand il a fait Law and Order, il voulait absolument que les gens prennent conscience des questions de justice et des professions de justice et les difficultés de ces professions. Ça, c'était son intention. Suits, je ne crois pas qu'on s'intéresse énormément au droit civil, personnellement. Je pense que c'est pour montrer la vie d'un avocat qui peut se permettre un mur de vinyle ou qui a une belle voiture. Ça dépend des périodes et ça dépend des chaînes et ça dépend aussi du producteur, du executive producer qui vend son truc ou pas et qui a l'intention d'être sérieux ou pas. The Wire, ils savent exactement ce qu'ils voulaient faire. Et il n'y a personne qui est épargné dans le Wild. Et pourquoi est-ce que ça a été sur HBO et pas sur une chaîne nationale? Parce qu'aucune chaîne aurait touché, attaqué les gouvernements municipaux, attaqué les médias. Ils n'auraient pas... Ils auraient pas. Et puis, souvent, je trouve que même si on respecte le téléspectateur et on lui donne des choses plus complexes maintenant parce qu'il est capable... Et en France, je suis désolée, en France, c'est pas le cas. On ne respecte pas le téléspectateur. Et maintenant, on commence uniquement à écrire un tout petit peu mieux parce qu'on veut vendre en Angleterre et aux États-Unis. Mais il faut quand même accompagner. Si on veut utiliser ça comme un vrai produit à l'école, et je le préconise, il faut l'accompagner. Parce que les jeunes qui regardent les séries, au bout d'un moment, ils savent très bien discuter une mauvaise série. Et ça, ça développe l'analyse critique aussi. Tout n'est pas à jeter dans la poubelle. Hein. Même si c'est mauvais, c'est pas à jeter. Mais non, l'intention de certains scénaristes, c'était tout à fait de... Est-ce que vous vous rendez compte de ça?
Merci beaucoup pour cette séance. Merci aussi le public qui a un peu dépassé l'horaire. Donc, rendez-vous donc au colloque au mois de mars. On a fait une séance ici là. Et sinon, la prochaine séance vidéo du juge aura lieu le 2 avril avec Stéphane Nouban sur le juge chinois depuis, je crois, en l'ère moderne. Donc, je ne sais pas sur la